What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Chapitre 4 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 4. L'épaule d'Athos, le baudrier de Porthos et le mouchoir d'Aramis. D'Artagnan, furieux, avait traversé l'antichambre en trois bonds et s'élançait sur l'escalier, dont il comptait descendre les degrés 4 à 4, lorsque, emporté par sa course, il alla donner tête baissée dans un mousquetaire qui sortait de chez M. de Tréville par une porte de dégagement et, le heurtant du front à l'épaule, lui fit pousser un cri, ou plutôt un hurlement. « Excusez-moi, » dit D'Artagnan, essayant de reprendre sa course. « Excusez-moi, mais je suis pressé. » À peine avait-il descendu le premier escalier qu'un poignet de fer le saisit par son écharpe et l'arrêta. « Vous êtes pressé, » s'écria le mousquetaire, pâle comme un linceul. « Sous ce prétexte, vous me heurtez. Vous dites « Excusez-moi » et vous croyez que cela suffit. Pas tout à fait, mon jeune homme. » « Croyez-vous, parce que vous avez entendu M. de Tréville nous parler un peu cavalièrement, aujourd'hui, que l'on peut nous traiter comme il nous parle ? Détrompez-vous, compagnon, vous n'êtes pas M. de Tréville, vous. »« Ma foi, » répliqua D'Artagnan, qui reconnut Athos, lequel, après le pansement opéré par le docteur, regagnait son appartement. « Ma foi, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai dit « excusez-moi ». Il me semble donc que c'est assez. Je vous répète cependant, et cette fois, c'est trop peut-être, parole d'honneur, je suis pressé, très pressé. Lâchez-moi donc, je vous prie, et laissez-moi aller où j'ai affaire. Monsieur, dit Athos en le lâchant, vous n'êtes pas poli. On voit que vous venez de loin. D'Artagnan avait déjà enjambé 3 ou 4 degrés. Mais à la remarque d'Athos, il s'arrêta court. « Morbleu, monsieur, dit-il, de si loin que je vienne, ce n'est pas vous qui me donnerez une leçon de belle manière, je vous en préviens. »« Peut-être, dit Athos. « Ah, si je n'étais pas si pressé, s'écria D'Artagnan, et si je ne courais pas après quelqu'un. »« Monsieur l'homme pressé, vous me trouverez sans courir, moi, entendez-vous ? Et où cela, s'il vous plaît ? Près des Carmes des Chaux. « À quelle heure ?»« Vers midi. »« Vers midi, c'est bien, j'y serai. »« Tâchez de ne pas me faire attendre, car à midi un quart, je vous préviens que c'est moi qui courrai après vous et vous couperai les oreilles à la course. »« Bon, » lui cria D'Artagnan, « on y sera à midi moins 10 minutes. » Et il se mit à courir, comme si le diable l'emportait, espérant retrouver encore son inconnu, que son pas tranquille ne devait pas avoir conduit bien loin, Mais, à la porte de la rue, causait Porthos, avec un soldat aux gardes. Entre les deux causeurs, il y avait juste l'espace d'un homme. D'Artagnan crut que cet espace lui suffirait. Et il s'élança pour passer comme une flèche entre eux deux. Mais D'Artagnan avait compté sans le vent. Comme il allait passer, le vent s'engouffra dans le long manteau de Porthos, et D'Artagnan vint donner droit dans le manteau. Sans doute, Porthos avait des raisons de ne pas abandonner cette partie essentielle de son vêtement, car, au lieu de laisser aller le pan qu'il tenait, il tira à lui, de sorte que D'Artagnan s'enroula dans le velours par un mouvement de rotation qu'explique la résistance de l'obstiné Porthos. D'Artagnan, entendant jurer le mousquetaire, voulut sortir de dessous le manteau qui l'aveuglait, et chercha son chemin dans le pli. Il redoutait surtout d'avoir porté atteinte à la fraîcheur du magnifique baudrier que nous connaissons. Mais, en ouvrant timidement les yeux, il se trouva le nez collé entre les deux épaules de Porthos, c'est-à-dire, précisément, sur le baudrier. Hélas, comme la plupart des choses de ce monde qui n'ont pour elles que l'apparence, le baudrier était d'or par devant et de simples buffles par derrière. Porthos, en vrai glorieux qu'il était, ne pouvant avoir un baudrier d'or tout entier, en avait au moins la moitié. On comprenait dès lors la nécessité du rhume et l'urgence du manteau. Ventre bleu, cria Porthos, faisant tous ses efforts pour se débarrasser de D'Artagnan qui lui grouillait dans le dos. « Vous êtes donc enragé de vous jeter comme cela sur les gens ?»« Excusez-moi, » dit D'Artagnan, reparaissant sous l'épaule du géant. « Mais je suis très pressé, et je cours après quelqu'un, et... »« Est-ce que vous oubliez vos yeux quand vous courez par hasard ?» demanda Porthos. « Non, » répondit D'Artagnan piqué. « Non, et grâce à mes yeux, je vois même ce que ne voient pas les autres. » Porthos comprit ou ne comprit pas, toujours est-il que, se laissant aller à sa colère, « Monsieur, dit-il, vous vous ferez étriller. Je vous en préviens, si vous vous frottez ainsi aux mousquetaires. »« Étriller, monsieur, dit D'Artagnan, le mot est dur. C'est celui qui convient à un homme habitué à regarder en face ses ennemis. Ah, pardieu, je sais bien que vous ne tournez pas le dos au vôtre, vous. » Et le jeune homme, enchanté de son espièglerie, s'éloigna en riant à gorge déployée. Porthos s'écuma de rage et fit un mouvement pour se précipiter sur D'Artagnan. « plus tard !» lui cria celui-ci. « Quand vous n'aurez plus votre manteau. » « À une heure donc, derrière le Luxembourg. »« Très bien, à une heure, » répondit D'Artagnan en tournant l'angle de la rue. Mais, ni dans la rue qu'il venait de parcourir, ni dans celle qu'il embrassait maintenant du regard, il ne vit personne. Si doucement qu'eût marché l'inconnu, il avait gagné du chemin. Peut-être, aussi, était-il entré dans quelque maison. D'Artagnan s'informa de lui à tous ceux qu'il rencontra, descendit jusqu'au bac, remonta par la rue de la Seine et de la Croix-Rouge. Mais rien, absolument rien. Cependant, cette course lui fut profitable, en ce sens qu'à mesure que la sueur inondait son front, son cœur se refroidissait. Il se mit alors à réfléchir sur les événements qui venaient de se passer. Ils étaient nombreux et néfastes. Il était 11 heures du matin à peine, et déjà, la matinée lui avait apporté la disgrâce de M. de Tréville, qui ne pouvait manquer de trouver un peu cavalière la façon dont D'Artagnan l'avait quitté. En outre, il avait ramassé 2 bons duels avec 2 hommes capables de tuer chacun 3 D'Artagnan, avec 2 mousquetaires enfin, c'est-à-dire avec 2 de ces êtres qu'il estimait si fort qu'il les mettait, dans sa pensée et dans son cœur, au-dessus de tous les autres hommes. la conjecture était triste. Sûr d'être tué par Athos, on comprend que le jeune homme ne s'inquiétait pas beaucoup de Porthos. Pourtant, comme l'espérance est la dernière chose qui s'éteint dans le cœur de l'homme, il en arriva à espérer qu'il pourrait survivre, avec des blessures terribles, bien entendu, à ces deux duels, et, en cas de survivance, il se fit pour l'avenir les réprimandes suivantes. « Quel écervelé je fais, et quel butor je suis !» Ce brave et malheureux Athos était blessé juste à l'épaule, contre laquelle je m'en vais, moi, donner de la tête comme un bélier. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'il ne m'ait pas tué raide. Il en avait le droit, et la douleur que je lui ai causée a dû être atroce. Quant à Porthos... Oh, quant à Porthos, ma foi, c'est plus drôle. Et, malgré lui, le jeune homme se mit à rire, tout en regardant néanmoins si ce rire isolé, et sans cause aux yeux de ceux qui le voyaient rire, n'allait pas blesser quelque passant. Quant à Porthos, c'est plus drôle. Mais je n'en suis pas moins un misérable étourdi. Se jette-t-on ainsi sur les gens sans dire gare? Non. Et va-t-on le regarder sous le manteau pour y voir ce qui n'y est pas? Il m'eût pardonné, bien certainement. Il m'eût pardonné si je n'eusse pas été lui parler de ce maudit baudrier. À mot couvert, c'est vrai. Oui, couvert joliment. Ah, maudit gascon que je suis! Je ferai de l'esprit dans la poêle à frire. Allons, D'Artagnan, mon ami, continua-t-il, se parlant à lui-même avec toute l'aménité qu'il croyait se devoir. Si tu en réchappes, ce qui n'est pas probable, il s'agit d'être à l'avenir d'une politesse parfaite. Désormais, il faut qu'on t'admire, qu'on te cite comme modèle. Être prévenant et poli, ce n'est pas être lâche. Regardez plutôt Aramis. Aramis, c'est la douceur, c'est la grâce en personne. Eh bien, personne s'est-il jamais avisé de dire qu'Aramis était un lâche? Non, bien certainement, et désormais, je veux en tout point me modeler sur lui. Ah, justement, le voici. D'Artagnan, tout en marchant et en monologuant, était arrivé à quelques pas de l'hôtel d'Aiguillon, et devant cet hôtel, il avait aperçu Aramis, causant gaiement avec trois gentilshommes des gardes du roi. De son côté, Aramis aperçut D'Artagnan. Mais comme il n'oubliait point que c'était devant ce jeune homme que M. de Tréville s'était si fort emporté ce matin, et qu'un témoin des reproches que les mousquetaires avaient reçus ne lui était d'aucune façon agréable, il fit semblant de ne pas le voir. D'Artagnan, tout entier, au contraire, à ses plans de conciliation et de courtoisie, s'approcha des quatre jeunes gens en leur faisant un grand salut, accompagné du plus gracieux sourire. Aramis inclina légèrement la tête, mais ne sourit point. Tous quatre, au reste, interrompirent à l'instant même leur conversation. D'Artagnan n'était pas assez niais pour ne point s'apercevoir qu'il était de trop. Mais il n'était pas encore assez rompu aux façons du beau monde pour se tirer galamment d'une situation fausse comme l'est, en général, celle d'un homme qui est venu se mêler à des gens qu'il connaît à peine et à une conversation qui ne le regarde pas. Il cherchait donc en lui-même un moyen de faire sa retraite le moins gauchement possible. Lorsqu'il remarqua qu'Aramis avait laissé tomber son mouchoir et, par mégarde sans doute, avait mis le pied dessus. Le moment lui parut arriver de réparer son inconvenance. Il se baissa, et de l'air le plus gracieux qu'il put trouver, tira le mouchoir de dessous le pied du mousquetaire. Quelques efforts que celui-ci fit pour le retenir, et lui dit, en le lui remettant, « Je crois, monsieur, que voici un mouchoir que vous seriez fâché de perdre. » Le mouchoir était en effet richement brodé et portait une couronne et des armes à l'un de ses coins. Aramis rougit excessivement et arracha, plutôt qu'il ne prit, le mouchoir des mains du gascon. « Ah, ah !» s'écria l'un des gardes. « Diras-tu encore, discrète Aramis, que tu es mal avec madame de Bois-Tracy, quand cette gracieuse dame a l'obligeance de te prêter ses mouchoirs. » Aramis lança à D'Artagnan un de ces regards qui font comprendre à un homme qu'il vient de s'acquérir un ennemi mortel. Puis, reprenant son air doucereux, « Vous vous trompez, messieurs, » dit-il, « ce mouchoir n'est pas à moi, et je ne sais pourquoi monsieur a eu la fantaisie de me le remettre plutôt qu'à l'un de vous. Et la preuve de ce que je dis, c'est que voici le mien dans ma poche. » À ces mots, il tira son propre mouchoir, mouchoir fort élégant aussi, et de fine batiste, quoique la batiste fût chère à cette époque, mais mouchoir sans broderie, sans armes, et orné d'un seul chiffre, celui de son propriétaire. Cette fois, D'Artagnan ne souffla pas mot. Il avait reconnu sa bévue, mais les amis d'Aramis ne se laissèrent pas convaincre par ses dénégations, et l'un d'eux, s'adressant au jeune mousquetaire avec un sérieux affecté, « Si c'était cela, dit-il, ainsi que tu le prétends, je serais forcé, mon cher Aramis, de te le redemander, car, comme tu le sais, Bois-Tracy est un de mes intimes, et je ne veux pas qu'on fasse trophée des effets de sa femme. » « Tu demandes cela mal, » répondit Aramis, et tout en reconnaissant la justesse de ta réclamation quant au fond, je refuserai à cause de la forme. « Le fait est, » hasarda timidement D'Artagnan, « que je n'ai pas vu sortir le mouchoir de la poche de M. Aramis. Il avait le pied dessus, voilà tout, et j'ai pensé que, puisqu'il avait le pied dessus, le mouchoir était à lui. « Et vous vous êtes trompé, mon cher monsieur, » répondit froidement Aramis, peu sensible à la réparation. Puis, se retournant vers celui des gardes qui s'était déclaré l'ami de Bois-Tracy, « D'ailleurs, continua-t-il, je réfléchis, mon cher intime de Bois-Tracy, que je suis son ami non moins tendre que tu peux l'être toi-même, de sorte qu'à la rigueur, ce mouchoir peut aussi bien être sorti de ta poche que de la mienne. » « Non, sur mon honneur, » s'écria le garde de sa majesté. « Tu vas jurer sur ton honneur, et moi sur ma parole. Et alors, il y aura évidemment un de nous qui mentira. Tiens, faisons mieux, monte à rang. Prenons-en chacun la moitié. » « Du mouchoir ?»« Oui. » « Parfaitement, » s'écrièrent les deux autres gardes. « Le jugement du roi Salomon. » « Décidément, Aramis, « tu es plein de sagesse. » Les jeunes gens éclatèrent de rire, et, comme on le pense bien, l'affaire n'eut pas d'autre suite. Au bout d'un instant, la conversation cessa, et les trois gardes et le mousquetaire, après s'être cordialement serré la main, tirèrent, les trois gardes de leur côté et Aramis du sien. « Voilà le moment de faire ma paix avec ce galant homme. » se dit à part lui, D'Artagnan, qui s'était tenu un peu à l'écart pendant toute la dernière partie de cette conversation. Et sur ce bon sentiment, se rapprochant d'Aramis, qui s'éloignait sans faire autrement attention à lui, « Monsieur, lui dit-il, vous m'excuserez, je l'espère. »« Ah, monsieur, » interrompit Aramis, « permettez-moi de vous faire observer que vous n'avez point agi en cette circonstance comme un galant homme le devait faire. « Quoi, monsieur ? » s'écria D'Artagnan. « Vous supposez ?»« Je suppose, monsieur, que vous n'êtes pas un sot, et que vous savez bien, quoiqu'arrivant de Gascogne, qu'on ne marche pas sans cause sur les mouchoirs de poche. Que diable ! Paris n'est point pavé en batiste. » « Monsieur, vous avez tort de chercher à m'humilier, » dit D'Artagnan, chez qui le naturel querelleur commençait à parler plus haut que les résolutions pacifiques. « Je suis de Gascogne, c'est vrai, et puisque vous le savez, je n'aurai pas besoin de vous dire que les Gascons sont peu endurants, de sorte que, lorsqu'ils se sont excusés une fois, fût-ce d'une sottise, ils sont convaincus qu'ils ont déjà fait moitié plus qu'ils ne devaient faire. « Monsieur, ce que je vous en dis, » répondit Aramis, « n'est point pour vous chercher une querelle, Dieu merci, Je ne suis pas un spadassin, et n'étant mousquetaire que par intérim, je ne me bats que lorsque j'y suis forcé, et toujours avec une grande répugnance. Mais cette fois, l'affaire est grave, car voici une dame compromise par vous. Par nous, c'est-à-dire, s'écria d'Artagnan. Pourquoi avez-vous eu la maladresse de me rendre le mouchoir? Pourquoi avez-vous eu celle de le laisser tomber? Je l'ai dit, et je le répète, monsieur, que ce mouchoir n'est point sorti de ma poche. Eh bien, vous en avez menti deux fois, monsieur, car je l'en ai vu sortir, moi. Ah! Vous le prenez sur ce ton, monsieur le Gascon. Eh bien, je vous apprendrai à vivre. Et moi, je vous renverrai à votre messe, monsieur l'abbé. Dégainez, s'il vous plaît, et à l'instant même. Non pas, s'il vous plaît, mon bel ami, non pas ici, du moins. Ne voyez-vous pas que nous sommes en face de l'hôtel d'Aiguillon, lequel est plein de créatures du cardinal? Qui me dit que ce n'est pas son éminence qui vous a chargé de lui procurer ma tête? Or, j'y tiens ridiculement à ma tête, attendu qu'elle me semble aller assez correctement à mes épaules. Je veux donc vous tuer, soyez tranquille, mais vous tuer tout doucement, dans un endroit clos et couvert, là où vous ne puissiez vous vanter de votre mort à personne. Je le veux bien, mais ne vous y fiez pas, et emportez votre mouchoir, qu'il vous appartienne ou non. Peut-être aurez-vous l'occasion de vous en servir. « Monsieur est Gascon ?» demanda Aramis. « Oui. Monsieur ne remet pas un rendez-vous par prudence ?»« La prudence, monsieur, est une vertu assez inutile aux mousquetaires, je le sais, mais indispensable aux gens d'église. Et comme je ne suis mousquetaire que provisoirement, je tiens à rester prudent. À 2 heures, j'aurai l'honneur de vous attendre à l'hôtel de monsieur de Tréville, là, je vous indiquerai les bons endroits. » Les deux jeunes gens se saluèrent. Puis, Aramis s'éloigna en remontant la rue qui remontait au Luxembourg, tandis que d'Artagnan, voyant que l'heure s'avançait, prenait le chemin des Carmes des Chaux, tout en disant à part soi, « Décidément, je n'en puis pas revenir. Mais au moins, si je suis tué, je serai tué par un mousquetaire. » Du chapitre 4.
Chapitre 5 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Les Trois Mousquetaires, par Alexandre Dumas. Chapitre 5. Les Mousquetaires du Roi et les Gardes de Monsieur le Cardinal. D'Artagnan ne connaissait personne à Paris. Il alla donc au rendez-vous d'Athos sans amener de second, résolu de se contenter de ceux qu'aurait choisi son adversaire. D'ailleurs, son intention était formelle, de faire au brave mousquetaire toutes les excuses convenables, mais sans faiblesse, craignant qu'il ne résultât de ce duel ce qui résulte toujours de fâcheux dans une affaire de ce genre. Quand un homme jeune et vigoureux se bat contre un adversaire blessé et affaibli, vaincu, il double le triomphe de son antagoniste. Vainqueur, il est accusé de forfaiture et de facile audace. Au reste, où nous avons mal exposé le caractère de notre chercheur d'aventure, où notre lecteur a déjà dû remarquer que d'Artagnan n'était point un homme ordinaire. Aussi, tout en se répétant à lui-même que sa mort était inévitable, il ne se résigna point à mourir tout doucettement, comme un autre moins courageux et moins modéré que lui eût fait à sa place. Il réfléchit aux différents caractères de ceux avec lesquels il allait se battre, et commença à voir plus clair dans sa situation. Il espérait, grâce aux excuses loyales qu'il lui réservait, se faire un ami d'Athos, dont l'air grand seigneur et la mine austère lui agréaient fort. Il se flattait de faire peur à Porthos avec l'aventure du baudrier, qu'il pouvait, s'il n'était pas tué sur le coup, raconter à tout le monde, récit qui, poussé adroitement à l'effet, devait couvrir Porthos de ridicule. Enfin, quant au sournois Aramis, il n'en avait pas très grand-peur, et en supposant qu'il arrivât jusqu'à lui, il se chargeait de l'expédier bel et bien, ou du moins, en le frappant au visage, comme César avait recommandé de faire aux soldats de Pompée, d'endommager à tout jamais cette beauté dont il était si fier. Ensuite, il y avait chez D'Artagnan ce fond inébranlable de résolution qu'avaient déposé dans son cœur les conseils de son père, conseils dont la substance était ne rien souffrir de personne que du roi, du cardinal et de M. de Tréville. Il vola donc, plutôt qu'il ne marcha, vers le couvent des Carmes déchaussés, ou plutôt déchaux, comme on disait à cette époque, sorte de bâtiment sans fenêtres, bordé de prés arides, succursale du pré aux clercs, et qui servait d'ordinaire aux rencontres des gens qui n'avaient pas de temps à perdre. Lorsque D'Artagnan arriva, en vue du petit terrain vague qui s'étendait au pied de ce monastère, Athos attendait depuis 5 minutes seulement, et midi sonnait. Il était donc ponctuaire comme la Samaritaine, et le plus rigoureux casuitiste, à l'égard des duels, n'avait rien à dire. Athos, qui souffrait toujours cruellement de sa blessure, quoiqu'elle eût été pansée à neuf par le chirurgien de M. de Tréville, s'était assis sur une borne et attendait son adversaire avec cette contenance paisible et cet air digne qui ne l'abandonnait jamais. À l'aspect de D'Artagnan, il se leva et fit poliment quelques pas au-devant de lui. Celui-ci, de son côté, n'aborda son adversaire que le chapeau à la main et sa plume traînant jusqu'à terre. « Monsieur, dit Athos, j'ai fait prévenir deux de mes amis qui me serviront de second. Mais ces deux amis ne sont point encore arrivés. Je m'étonne qu'ils tardent. Ce n'est pas leur habitude. » « Je n'ai pas de second, moi, monsieur, dit D'Artagnan, car, arrivé d'hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne que M. de Tréville, auquel j'ai été recommandé par mon père, qui a l'honneur d'être quelque peu de ses amis. » Athos réfléchit un instant. « Vous ne connaissez que M. de Tréville ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur, je ne connais que lui. »« Ah, ça ! Mais, continua Athos, parlant à moitié à lui-même, moitié à D'Artagnan. « Ah ça! Mais si je vous tue, j'aurai l'air d'un mangeur d'enfants, moi. » « Pas trop, monsieur, » répondit D'Artagnan, avec un salut qui ne manquait pas de dignité. « Pas trop, puisque vous me faites l'honneur de tirer l'épée contre moi avec une blessure dont vous devez être fort incommodé. » « Très incommodé, sur ma parole. Et vous m'avez fait un mal du diable, je dois le dire. Mais je prendrai la main gauche. C'est mon habitude en pareille circonstance. Ne croyez donc pas que je vous fasse une grâce. Je tire promptement des deux mains. Et il y aura même des avantages pour vous. Un gaucher est très gênant pour les gens qui ne sont pas prévenus. Je regrette de ne pas vous avoir fait part plus tôt de cette circonstance. « Vous êtes vraiment, monsieur, dit D'Artagnan en s'inclinant de nouveau, d'une courtoisie dont je vous suis on ne peut plus reconnaissant. « Vous me rendez confus, répondit Athos avec son air de gentilhomme. « Causons donc d'autre chose, je vous prie, à moins que cela ne vous soit désagréable. « Ah, sangbleu, que vous m'avez fait mal, l'épaule me brûle. « Si vous vouliez permettre, dit D'Artagnan avec timidité. « Quoi, monsieur ? J'ai un baume miraculeux pour les blessures, un baume qui me vient de ma mère et dont j'ai fait l'épreuve sur moi-même. Eh bien ? Eh bien, je suis sûr qu'en moins de 3 jours, ce baume vous guérirait, et au bout de 3 jours, quand vous seriez guéri, eh bien, monsieur, ce me serait toujours un grand honneur d'être votre homme. » D'Artagnan dit ces mots avec une simplicité qui faisait honneur à sa courtoisie, sans porter aucunement atteinte à son courage. Par Dieu, monsieur, dit Athos, voici une proposition qui me plaît, non pas que je l'accepte, mais elle sent son gentilhomme d'une lieue. C'est ainsi que parlaient et faisaient ces preux du temps de Charlemagne, sur lesquels tout cavalier doit chercher à se modeler. Malheureusement, nous ne sommes plus au temps du grand empereur, nous sommes au temps de monsieur le cardinal, et d'ici à 3 jours, on saurait, si bien gardé que soit le secret, on saurait, dis-je, que nous devons nous battre, et l'on s'opposerait à notre combat. Ah ça, mais ces flâneurs ne viendront donc pas ?
Si vous êtes pressé, monsieur, dit D'Artagnan à Athos, avec la même simplicité qu'un instant auparavant, il lui avait proposé de remettre le duel à 3 jours, si vous êtes pressé, et qu'il vous plaise de m'expédier tout de suite, ne vous gênez pas, je vous en prie.
Voilà encore un mot qui me plaît, dit Athos, en faisant un gracieux signe de tête à D'Artagnan. Il n'est point d'un homme sans cervelle, et il est à coup sûr d'un homme de cœur. Monsieur, j'aime les hommes de votre trempe, et je vois que si nous ne nous tuons pas l'un l'autre, j'aurai plus tard un vrai plaisir dans votre conversation. Attendons ces messieurs, je vous prie. J'ai tout le temps, et cela sera plus correct. Ah, en voici un, je crois. En effet, au bout de la rue de Vaugirard, commençait à apparaître le gigantesque Porthos.
Quoi ? S'écria D'Artagnan. Votre premier témoin est monsieur Porthos ?
Oui. Cela vous contrarie-t-il ?
Non, aucunement.
Et voici le second. D'Artagnan se retourna du côté indiqué par Athos et reconnut Aramis.
Quoi ? S'écria-t-il d'un accent plus étonné que la première fois. Votre second témoin est monsieur Aramis ?
Sans doute. Ne savez-vous pas qu'on ne nous voit jamais l'un sans l'autre, et qu'on nous appelle, dans les mousquetaires et dans les gardes, à la cour et à la ville, Athos, Porthos et Aramis, ou les trois inséparables.
Après cela, comme vous arrivez de Dax ou de Pau.
De Tarbes, dit D'Artagnan.
Il vous est permis d'ignorer ce détail, dit Athos.
Ma foi, dit D'Artagnan, vous êtes bien nommés, messieurs, et mon aventure, si elle fait quelque bruit, prouvera du moins que votre union n'est point fondée sur les contrastes.
Pendant ce temps, Porthos s'était rapproché, avait salué de la main Athos, puis, se retournant vers D'Artagnan, était resté tout étonné. Disons en passant qu'il avait changé de baudrier et quitté son manteau.
« Ah, ah, fit-il, qu'est-ce que cela ?»«
C'est avec monsieur que je me bats, dit Athos, en montrant de la main D'Artagnan et en le saluant du même geste.
C'est avec lui que je me bats aussi, dit Porthos.
Mais à 1 heure seulement, répondit D'Artagnan.
Et moi aussi, c'est avec monsieur que je me bats, dit Aramis en arrivant à son tour sur le terrain.
Mais à 2 heures seulement, fit D'Artagnan, avec le même calme.
Mais à propos de quoi te bats-tu, toi, Athos ? Demanda Aramis.
Ma foi, je ne sais pas trop. Il m'a fait mal à l'épaule. Et toi, Porthos ?
Ma foi, je me bats parce que je me bats,
répondit Porthos en rougissant. Athos, qui ne perdait rien, vit passer un sourire sur les lèvres du Gascon.
Nous avons eu une discussion sur la toilette, dit le jeune homme.
Et toi, Aramis ? Demanda Athos.
Moi, je me bats pour cause de théologie, répondit Aramis, tout en faisant signe à D'Artagnan qu'il le priait de tenir secrète la cause de son duel.
Athos vit passer un second sourire sur les lèvres de D'Artagnan.
Vraiment, dit Athos.
Oui, un point de Saint-Augustin sur lequel nous ne sommes pas d'accord, dit le Gascon.
Décidément, c'est un homme d'esprit, murmura Athos.
Et maintenant que vous êtes rassemblés, messieurs, dit D'Artagnan, permettez-moi de vous faire mes excuses.
À ce mot d'excuse, un nuage passa sur le front d'Athos, un sourire hautain glissa sur les lèvres de Porthos, et un signe négatif fit la réponse d'Aramis.
Vous ne me comprenez pas, monsieur, dit D'Artagnan, en relevant sa tête, sur laquelle jouait en ce moment un rayon de soleil qui endorait les lignes fines et hardies. Je vous demande excuse dans le cas
ou je ne pourrai vous payer ma dette à tous trois, car Monsieur Athos a le droit de me tuer le premier, ce qui ôte beaucoup de sa valeur à votre créance, Monsieur Porthos, et ce qui rend la vôtre à peu près nulle, Monsieur Aramis. Et maintenant, messieurs, je vous le répète, excusez-moi, mais de cela seulement, et en garde. » À ces mots, du geste le plus cavalier qui se puisse voir, D'Artagnan tira son épée. Le sang était monté à la tête de D'Artagnan, et dans ce moment, il eut tiré son épée contre tous les mousquetaires du royaume, comme il venait de faire contre Athos, Porthos et Aramis. Il était midi et un quart. Le soleil était à son zénith, et l'emplacement choisi pour être le théâtre du duel se trouvait exposé à toute son ardeur. « Il fait très chaud, » dit Athos, en tirant son épée à son tour. « Et cependant, je ne saurais ôter mon pourpoint, car tout à l'heure encore, j'ai senti que ma blessure saignait, et je craindrais de gêner monsieur en lui montrant du sang qu'il ne m'aurait pas tiré lui-même. « C'est vrai, monsieur, » dit D'Artagnan, « et tiré par un autre ou par moi, je vous assure que je verrai toujours avec bien du regret le sang d'un aussi brave gentilhomme. Je me battrai donc en pourpoint comme vous. » « Voyons, voyons, » dit Porthos, « assez de compliments comme cela, et songez que nous attendons notre tour. » « Parlez pour vous seul, Porthos, quand vous aurez à dire de pareilles incongruités, » interrompit Aramis. « Quant à moi, je trouve les choses que ces messieurs se disent fort bien dites et tout à fait dignes de deux gentilshommes. » « Quand vous voudrez, monsieur, » dit Athos en se mettant en garde. « J'attendais vos ordres, » dit D'Artagnan en croisant le fer. Mais les deux rapières avaient à peine résonné en se touchant qu'une escouade des gardes de son éminence, commandée par monsieur de Jussac, se montra à l'angle du couvent. « Les gardes du cardinal !» s'écrièrent à la fois Porthos et Aramis. « L'épée au fourreau, messieurs, l'épée au fourreau !» Mais il était trop tard. Les deux combattants avaient été vus dans une pose qui ne permettait pas de douter de leurs intentions. « Oula ! » cria Jussac en s'avançant vers eux et en faisant signe à ses hommes d'en faire autant. « Hola, mousquetaire, on se bat donc ici ? Et les édits, qu'en faisons-nous ? » « Vous êtes bien généreux, messieurs les gardes, » dit Athos plein de rancune, car Jussac était un des agresseurs de l'avant-veille. « Si nous vous voyons battre, je vous réponds, moi, que nous nous garderions bien de vous en empêcher. Laissez-nous donc faire, et vous allez avoir du plaisir sans prendre aucune peine. » « Messieurs, » dit Jussac, « c'est avec un grand regret que je vous déclare que la chose est impossible. Notre devoir avant tout. Rengainez donc, s'il vous plaît, et nous suivez. » « Monsieur, » dit Aramis parodiant Jussac, « ce serait avec un grand plaisir que nous obéirions à votre gracieuse invitation, si cela dépendait de nous. Mais malheureusement, la chose est impossible. Monsieur de Tréville nous l'a défendu. « Passez donc votre chemin. C'est ce que vous avez de mieux à faire. » Cette raillerie exaspéra Jussac. « Nous vous chargerons donc, » dit-il, « si vous désobéissez. » « Ils sont cinq, » dit Athos à demi-voix, « et nous ne sommes que trois. Nous serons encore battus, et il nous faudra mourir ici, car je le déclare, je ne reparais pas vaincu devant le capitaine. » Alors, Porthos et Aramis se rapprochèrent à l'instant les uns des autres, pendant que Jussac alignait ses soldats. Ce seul moment suffit à D'Artagnan pour prendre son parti. C'était là un de ces événements qui décident de la vie d'un homme. C'était un choix à faire entre le roi et le cardinal. Ce choix fait, il fallait y persévérer. Se battre, c'est-à-dire désobéir à la loi, c'est-à-dire risquer sa tête, c'est-à-dire se faire d'un seul coup l'ennemi d'un ministre plus puissant que le roi lui-même, voilà ce qu'entrevit le jeune homme, et, disons-le à sa louange, il n'hésita point une seconde. Se tournant donc vers Athos et ses amis, « Messieurs, dit-il, je reprendrai, s'il vous plaît, quelque chose à vos paroles. Vous avez dit que vous n'étiez que trois, mais il me semble à moi que nous sommes quatre. Mais vous n'êtes pas des nôtres, dit Porthos.
C'est vrai, répondit d'Artagnan. Je n'ai pas l'habit, mais j'ai l'âme. Mon cœur est mousquetaire, je le sens bien, monsieur, et cela m'entraîne.
Écartez-vous, jeune homme, cria Jussac, qui, sans doute à ses gestes et à l'expression de son visage, avait deviné le dessein de d'Artagnan. Vous pouvez vous retirer, nous y consentons. Sauvez votre peau, allez vite.
D'Artagnan ne bougea point. Décidément, vous êtes un joli garçon, dit Athos, en serrant la main du jeune homme.
Allons, allons, prenons un parti, reprit Jussac.
Voyons, dirent Porthos et Aramis, faisons quelque chose.
Monsieur est plein de générosité, dit Athos.
Mais tous trois pensaient à la jeunesse de d'Artagnan et redoutaient son inexpérience.
Nous ne serons que trois, dont un blessé, plus un enfant, reprit Athos, et l'on n'en dira pas moins que nous étions quatre hommes.
Oui, mais reculez, dit Porthos.
C'est difficile, reprit Athos.
D'Artagnan comprit leur irrésolution.
Messieurs, essayez-moi toujours, dit-il, et je vous jure sur l'honneur que je ne veux pas m'en aller d'ici si nous sommes vaincus.
Comment vous appelle-t-on, mon brave? Dit Athos.
D'Artagnan, monsieur.
Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et d'Artagnan, en avant! Cria Athos.
Eh bien, voyons, messieurs, vous décidez-vous à vous décider? Cria pour la troisième fois Jussac.
C'est fait, messieurs, dit Athos.
Et quel parti prenez-vous? Demanda Jussac.
Nous allons avoir l'honneur de vous charger, répondit Aramis en levant son chapeau d'une main et tirant son épée de l'autre.
Ah, vous résistez, s'écria Jussac.
Sans Dieu, cela vous étonne?
Et les neuf combattants se précipitèrent les uns sur les autres avec une furie qui n'excluait pas une certaine méthode.
Athos prit un certain Cahusac, favori du cardinal.
Porthos eut Biscarra,
et Aramis se vit en face de deux adversaires.
Quant à d'Artagnan, il se trouva lancé contre Jussac lui-même.
Le cœur du jeune Gascon battait à lui briser la poitrine, non pas de peur, Dieu merci, il n'en avait pas l'ombre, mais d'émulation. Il se battait comme un tigre en fureur, tournant 10 fois autour de son adversaire, changeant 20 fois ses gardes et son terrain. Jussac était, comme on le disait alors, friand de la lame, et avait fort pratiqué. Cependant, il avait toutes les peines du monde à se défendre contre un adversaire qui, agile et bondissant, s'écartait à tout moment des règles reçues, attaquant de tous côtés à la fois, et tout cela en parant en homme qui a le plus grand respect pour son épiderme. Enfin, cette lutte finit par faire perdre patience à Jussac. Furieux d'être tenu en échec par celui qu'il avait regardé comme un enfant, il s'échauffa et commença à faire des fautes. D'Artagnan, qui, à défaut de la pratique, avait une profonde théorie, redoubla d'agilité. Jussac, voulant en finir, porta un coup terrible à son adversaire en se fendant à fond. Mais celui-ci para prime, et tandis que Jussac se relevait, se glissant comme un serpent sous son fer, il lui passa son épée au travers du corps. Jussac tomba comme une masse. D'Artagnan jeta alors un coup d'œil inquiet et rapide sur le champ de bataille. Aramis avait déjà tué un de ses adversaires, mais l'autre le pressait vivement. Cependant, Aramis était en bonne situation et pouvait encore se défendre. Biscarra et Porthos venaient de faire coup fourré. Porthos avait reçu un coup d'épée au travers du bras et Biscarra au travers de la cuisse. Mais comme ni l'une ni l'autre des deux blessures n'était grave, il ne s'en escrimait qu'avec plus d'acharnement. Athos, blessé de nouveau par Cahusac, pâlissait à vue d'œil, mais il ne reculait pas d'une semelle. Il avait seulement changé son épée de main et se battait de la main gauche. D'Artagnan, selon les lois du duel à cette époque, pouvait secourir quelqu'un. Pendant qu'il cherchait du regard celui de ses compagnons qui avait besoin de son aide, il surprit un coup d'œil d'Athos.
Ce coup d'œil était d'une éloquence sublime. Athos serait mort plutôt que d'appeler au secours. Mais il pouvait regarder, et du regard, demander un appui. D'Artagnan le devina, fit un bond terrible, et tomba sur le flanc de Cahusac, en criant « À moi, monsieur le garde, je vous tue !» Cahusac se retourna. Il était temps. Athos, que son extrême courage soutenait seul, tomba sur un genou. « Sans Dieu » cria-t-il à D'Artagnan. « Ne le tuez pas, jeune homme, je vous en prie. J'ai une vieille affaire à terminer avec lui, quand je serai guéri et bien portant. Désarmez-le seulement, liez-lui l'épée. C'est cela. Bien, très bien. » Cette exclamation était arrachée à Athos par l'épée de Cahusac, qui sautait à 20 pas de lui. D'Artagnan et Cahusac s'élancèrent ensemble, l'un pour la ressaisir, l'autre pour s'en emparer. Mais D'Artagnan, plus leste, arriva le premier et mit le pied dessus. Cahusac courut à celui des gardes qu'avait tué Aramis, s'empara de sa rapière et voulut revenir à D'Artagnan. Mais sur son chemin, il rencontra Athos, qui, pendant cette pause d'un instant que lui avait procuré D'Artagnan, avait repris haleine et qui, de crainte que D'Artagnan ne lui tuât son ennemi, voulait recommencer le combat. D'Artagnan comprit que ce serait désobliger Athos que de ne pas le laisser faire. En effet, quelques secondes après, Cahusac tomba, la gorge traversée d'un coup d'épée. Au même instant, Aramis appuyait son épée contre la poitrine de son adversaire renversé et le forçait à demander merci. Restaient Porthos et Biscarat. Porthos faisait mille fanfaronnades, demandant à Biscarat quelle heure il pouvait bien être, et lui faisant ses compliments sur la compagnie que venait d'obtenir son frère dans le régiment de Navarre. Mais, tout en raillant, il ne gagnait rien. Biscarat était un de ces hommes de fer qui ne tombent que morts. Cependant, il fallait en finir. Le guet pouvait arriver et prendre tous les combattants, blessés ou non, royalistes ou cardinalistes. Athos, Aramis et D'Artagnan entourèrent Biscarat et le sommèrent de se rendre. Quoique seul contre tous, et avec un coup d'épée qui lui traversait la cuisse, Biscarat voulait tenir, mais Jussac, qui s'était relevé sur son coude, lui cria de se rendre. Biscarat était un gascon comme D'Artagnan. Il fit la sourde oreille et se contenta de rire, et entre deux parades, trouvant le temps de désigner, du bout de son épée, une place à terre, « Ici, dit-il, parodiant un verset de la Bible, ici mourra Biscarat, seul de ceux qui sont avec lui. Mais ils sont quatre contre toi. Finis-en, je te l'ordonne. » « Ah, si tu l'ordonnes, c'est autre chose, » dit Biscarat. « Comme tu es mon brigadier, je dois obéir. » Et, faisant un bond en arrière, il cassa son épée sur son genou pour ne pas la rendre. On jeta les morceaux par-dessus le mur du couvent et se croisa les bras en sifflant un air cardinaliste. La bravoure est toujours respectée, même dans un ennemi. Les mousquetaires saluèrent Biscarat de leurs épées et les remirent au fourreau. D'Artagnan en fit autant, puis, aidé de Biscarat, le seul qui fût resté debout, il porta sur le porche du couvent Jussac, Cahusac et celui des adversaires d'Aramis qui n'étaient que blessés. Le quatrième, comme nous l'avons dit, était mort. Puis ils sonnèrent la cloche, et, en portant 4 épées sur 5, ils s'acheminèrent, ivres de joie, vers l'hôtel de M. de Tréville. On les voyait entrelacés, tenant toute la largeur de la rue, et accostant chaque mousquetaire qu'ils rencontraient, si bien qu'à la fin, ce fut une marche triomphale. Le cœur de D'Artagnan nageait dans l'ivresse. Il marchait entre Athos et Porthos, en les étreignant tendrement. « Si je ne suis pas encore mousquetaire, dit-il à ses nouveaux amis, en franchissant la porte de l'hôtel de M. de Tréville, au moins me voilà reçu apprenti, n'est-ce pas ?» Fin du chapitre 5.
Chapitre 6 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 6. Sa Majesté le Roi Louis XIII. L'affaire fit grand bruit. Monsieur de Tréville gronda beaucoup tout haut contre ses mousquetaires et les félicita tout bas. Mais comme il n'y avait pas de temps à perdre pour prévenir le roi, monsieur de Tréville s'empressa de se rendre au Louvre. Il était déjà trop tard. Le roi était enfermé avec le cardinal, et l'on dit à monsieur de Tréville que le roi travaillait et ne pouvait recevoir en ce moment. Le soir, M. de Tréville vint au jeu du roi. Le roi gagnait, et, comme Sa Majesté était fort avare, elle était d'excellente humeur. Aussi, du plus loin que le roi aperçut Tréville, « Venez ici, monsieur le capitaine, dit-il, venez que je vous gronde. Savez-vous que son éminence est venue me faire des plaintes sur vos mousquetaires, et cela avec une telle émotion que ce soir son éminence en est malade? Ah ça, mais ce sont des diables à quatre, des gens à pendre, que vos mousquetaires. » Non, sire, répondit Tréville, qui vit du premier coup d'œil comment la chose allait tourner. Non, tout au contraire, ce sont de bonnes créatures, douces comme des agneaux, et qui n'ont qu'un désir, je m'en ferai garant. C'est que leur épée ne sorte du fourreau que pour le service de votre majesté. Mais, que voulez-vous? Les gardes de monsieur le cardinal sont sans cesse à leur chercher querelle. Et pour l'honneur même du corps, les pauvres jeunes gens sont obligés de se défendre. Écoutez, monsieur de Tréville, dit le roi, écoutez. Ne dirait-on pas qu'il parle d'une communauté religieuse? En vérité, mon cher capitaine, j'ai envie de vous ôter votre brevet et de le donner à mademoiselle de Chemereau, à laquelle j'ai promis une abbaye. Mais ne pensez pas que je vous croirai ainsi sur parole. On m'appelle Louis le Juste, monsieur de Tréville, et tout à l'heure nous verrons. Ah, c'est parce que je me fie à cette justice, sire, que j'attendrai patiemment et tranquillement le bon plaisir de votre majesté. Attendez donc, monsieur, attendez donc, dit le roi. Je ne vous ferai pas attendre longtemps. En effet, la chance tournait, et comme le roi commençait à perdre ce qu'il avait gagné, il n'était pas fâché de trouver un prétexte pour faire, qu'on nous passe cette expression de joueur, dont nous l'avouons, nous ne connaissons pas l'origine, pour faire Charlemagne. Le roi se leva donc, au bout d'un instant, et mettant dans sa poche l'argent qui était devant lui, et dont la majeure partie venait de son gain, « La vieille ville, dit-il, prenez ma place, il faut que je parle à monsieur de Tréville pour affaire d'importance. Ah, j'avais 80 louis devant moi. Mettez la même somme, afin que ceux qui ont perdu n'aient pas à se plaindre. La justice avant tout. » Puis, se retournant vers monsieur de Tréville, et, marchant avec lui vers l'embrasure d'une fenêtre, « Eh bien, monsieur, continua-t-il, vous dites que ce sont les gardes de l'éminentissime qui ont été chercher querelle à vos mousquetaires ?»« Oui, sire, comme toujours. » Et comment la chose est-elle venue, voyons? Car vous le savez, mon cher capitaine, il faut qu'un juge écoute les deux parties. Ah, mon Dieu! De la façon la plus simple et la plus naturelle. Trois de mes meilleurs soldats, que votre majesté connaît de nom et dont elle a plus d'une fois apprécié le dévouement, et qui ont, je puis l'affirmer au roi, son service fort à cœur, trois de mes meilleurs soldats, dis-je, messieurs Athos, Porthos et Aramis, avaient fait une partie de plaisir avec un jeune cadet de Gascogne que je leur avais recommandé le matin même. La partie allait avoir lieu à Saint-Germain, je crois, et ils s'étaient donné rendez-vous au Carme des Chaux lorsqu'elle fut troublée par M. de Jussac et M. Cahusac, Biscarat et deux autres gardes qui ne venaient certes pas là en si nombreuse compagnie sans mauvaise intention contre les édits. « Ah, ah, vous m'y faites penser, dit le roi. Sans doute, ils venaient pour se battre eux-mêmes.
Je ne les accuse pas, sire, mais je laisse votre majesté apprécier ce que peuvent aller faire 5 hommes armés dans un lieu aussi désert que le sont les environs du couvent des Carmes.
Oui, vous avez raison, Tréville, vous avez raison.
Alors, quand ils ont vu mes mousquetaires, ils ont changé d'idée, et ils ont oublié leur haine particulière pour la haine de corps. Car votre majesté n'ignore pas que les mousquetaires qui sont au roi et rien qu'au roi sont les ennemis naturels des gardes qui sont à monsieur le cardinal.
Oui, Tréville, oui, dit le roi mélancoliquement. Et c'est bien triste, croyez-moi, de voir ainsi deux partis en France, deux têtes à la royauté. Mais tout cela finira, Tréville, tout cela finira. Vous dites donc que les gardes ont cherché querelle aux mousquetaires?
Je dis qu'il est probable que les choses se sont passées ainsi. Mais je n'en jure pas, sire. Vous savez combien la vérité est difficile à connaître. Et à moins d'être doué de cet instinct admirable qui a fait nommer Louis XIII le juste.
Et vous avez raison, Tréville. Mais ils n'étaient pas seuls, vos mousquetaires. Il y avait avec eux un enfant.
Oui, sire, et un homme blessé. De sorte que 3 mousquetaires du roi, dont un blessé et un enfant, ont non seulement tenu tête à 5 des plus terribles gardes de monsieur le cardinal, mais encore en ont porté 4 à terre.
Mais c'est une victoire, cela, s'écria le roi tout rayonnant, une victoire complète.
Oui, sire, aussi complète que celle du pont de C.
4 hommes, dont un blessé et un enfant, dites-vous?
Un jeune homme à peine, lequel s'est même si parfaitement conduit en cette occasion que je prendrai la liberté de le recommander à votre majesté.
Comment s'appelle-t-il?
D'Artagnan, sire. C'est le fils d'un de mes plus anciens amis, le fils d'un homme qui a fait, avec le roi votre père, de glorieuse mémoire, la guerre de partisans.
Et vous dites qu'il s'est bien conduit, ce jeune homme?
Racontez-moi cela, Tréville. Vous savez que j'aime les récits de guerre et de combat.
Et le roi Louis XIII releva fièrement sa moustache en se posant sur la hanche.
Sire, reprit Tréville, comme je vous l'ai dit, monsieur d'Artagnan est presque un enfant, et comme il n'a pas l'honneur d'être mousquetaire, il était en habit bourgeois. Les gardes de monsieur le cardinal, reconnaissant sa jeunesse, et de plus qu'il était étranger au corps, l'invitèrent donc à se retirer avant qu'il n'attaquasse.
« Alors vous voyez bien, Tréville, interrompit le roi, que ce sont eux qui ont attaqué. »
« C'est juste, sire. Ainsi, plus de doute. Ils le sommèrent donc de se retirer, mais il répondit qu'il était mousquetaire de cœur et tout à sa majesté, qu'ainsi donc il resterait avec messieurs les mousquetaires.
« Brave jeune homme, murmura le roi.
En effet, il demeura avec eux, et votre majesté alla un si ferme champion que ce fut lui qui donna à Jussac ce terrible coup d'épée qui met si fort en colère monsieur le cardinal.
C'est lui qui a blessé Jussac, s'écria le roi. Lui, un enfant?
Ceci, Tréville, c'est impossible.
C'est comme j'ai l'honneur de le dire à votre majesté.
Jussac, une des premières lames du royaume.
Eh bien, sire, il a trouvé son maître.
Je veux voir ce jeune homme, Tréville. Je veux le voir, et si l'on peut faire quelque chose, eh bien nous nous en occuperons.
Quand votre majesté daignera-t-elle le recevoir?
Demain à midi, Tréville.
L'amènerai-je seul?
Non, amenez-les-moi tous les 4 ensemble. Je veux les remercier tous à la fois. Les hommes dévoués sont rares, Tréville, et il faut récompenser le dévouement.
À midi, sire. Nous serons au Louvre.
Ah, par le petit escalier, Tréville, par le petit escalier. Il est inutile que le cardinal sache.
Oui, sire.
Vous comprenez, Tréville, un édit est toujours un édit. Il est défendu de se battre, au bout du compte.
Mais cette rencontre, sire, sort tout à fait des conditions ordinaires d'un duel. C'est une rixe. Et la preuve, c'est qu'ils étaient 5 gardes du cardinal contre mes 3 mousquetaires et monsieur d'Artagnan.
C'est juste, dit le roi. Mais n'importe, Tréville. Venez toujours par le petit escalier. Tréville sourit. Mais comme c'était déjà beaucoup pour lui d'avoir obtenu de cet enfant qu'il se révolta contre son maître, il salua respectueusement le roi et, avec son agrément, prit congé de lui. Dès le soir même, les trois mousquetaires furent prévenus de l'honneur qui leur était accordé. Comme ils connaissaient depuis longtemps le roi, ils n'en furent pas trop échauffés. Mais D'Artagnan, avec son imagination gasconne, y vit sa fortune à venir et passa la nuit à faire des rêves d'or. Aussi, dès 8 heures du matin, était-il chez Athos. D'Artagnan trouva le mousquetaire tout habillé et prêt à sortir. Comme on avait rendez-vous chez le roi qu'à midi, il avait formé le projet, avec Porthos et Aramis, d'aller faire une partie de paume dans un tripot situé tout près des écuries du Luxembourg. Athos invita D'Artagnan à les suivre, et malgré son ignorance de ce jeu, auquel il n'avait jamais joué, celui-ci accepta, ne sachant que faire de son temps, depuis 9 heures du matin qu'il était à peine jusqu'à midi. Les deux mousquetaires étaient déjà arrivés et pelotaient ensemble. Athos, qui était très fort à tous les exercices du corps, passa avec D'Artagnan du côté opposé et leur fit défi. Mais au premier mouvement qu'il essaya, quoiqu'il jouât de la main gauche, il comprit que sa blessure était encore trop récente pour lui permettre un pareil exercice. D'Artagnan resta donc seul, et comme il déclara qu'il était trop maladroit pour soutenir une partie en règle, on continua seulement à s'envoyer des balles sans compter le jeu. Mais une de ces balles, lancée par le poignet herculéen de Porthos, passa si près du visage de D'Artagnan qu'il pensa que si, au lieu de passer à côté, elle eût donné dedans, son audience était probablement perdue, attendu qu'il lui eût été de toute impossibilité de se présenter chez le roi. Or, comme de cette audience, dans son imagination gasconne, dépendait tout son avenir, il salua poliment Porthos et Aramis, déclarant qu'il ne reprendrait la partie que lorsqu'il serait en état de leur tenir tête, et il s'en revint prendre place près de la corde et dans la galerie. Malheureusement pour D'Artagnan, parmi les spectateurs se trouvait un garde de son éminence, lequel, tout échauffé encore de la défaite de ses compagnons, arrivé la veille seulement, s'était promis de saisir la première occasion de la venger. Il crut donc que cette occasion était venue, et s'adressant à son voisin, « Il n'est pas étonnant, dit-il, que ce jeune homme ait eu peur d'une balle. C'est sans doute un apprenti mousquetaire. » D'Artagnan se retourna comme si un serpent l'eût mordu, et regarda fixement le garde qui venait de tenir cet insolent propos. « Pardieu, reprit celui-ci en frisant insolemment sa moustache, « regardez-moi tant que vous voudrez, mon petit monsieur. J'ai dit ce que j'ai dit. » Et comme ce que vous avez dit est trop clair pour que vos paroles aient besoin d'explication, répondit D'Artagnan à voix basse, je vous prierai de me suivre. Et quand cela? Demanda le garde avec le même air railleur. Tout de suite, s'il vous plaît. Et vous savez qui je suis, sans doute? Moi, je l'ignore complètement, et je ne m'en inquiète guère. Et vous avez tort, car si vous saviez mon nom, peut-être seriez-vous moins pressé. « Comment vous appelez-vous ? » « Bernajoux, pour vous servir. »« Eh bien, monsieur Bernajoux, dit tranquillement D'Artagnan, je vais vous attendre sur la porte. »« Allez, monsieur, je vous suis. »« Ne vous pressez pas trop, monsieur, qu'on ne s'aperçoive pas que nous sortons ensemble. Vous comprenez que, pour ce que nous allons faire, trop de monde nous gênerait. »« C'est bien, répondit le garde, étonné que son nom n'eût pas produit plus d'effet sur le jeune homme. En effet, le nom de Bernajoux était connu de tout le monde, de D'Artagnan seul excepté peut-être, car c'était un de ceux qui figuraient le plus souvent dans les rixes journalières que tous les édits du roi et du cardinal n'avaient pu réprimer. Porthos et Aramis étaient si occupés de leur partie, et Athos les regardait avec tant d'attention qu'ils ne virent pas même sortir leur jeune compagnon, lequel, ainsi qu'il l'avait dit au garde de son éminence, s'arrêta sur la porte. Un instant après, celui-ci descendit à son tour. Comme D'Artagnan n'avait pas de temps à perdre, vu l'audience du roi, qui était fixée à midi, il jeta les yeux autour de lui, et voyant que la rue était déserte, « Ma foi, dit-il à son adversaire, il est bien heureux pour vous, quoique vous vous appeliez Bernajoux, de n'avoir affaire qu'à un apprenti mousquetaire. Cependant, soyez tranquille, je ferai de mon mieux. En garde !»« Mais, dit celui que D'Artagnan provoquait ainsi, il me semble que le lieu est mal choisi, et que nous serions mieux derrière l'abbaye de Saint-Germain, ou dans le pré aux clercs. » « Ce que vous dites est plein de sens, » répondit D'Artagnan. « Malheureusement, j'ai peu de temps à moi, ayant un rendez-vous à midi juste. En garde donc, monsieur, en garde !» Bernajoux n'était pas homme à se faire répéter deux fois un pareil compliment. Au même instant, son épée brilla à sa main, et il fondit sur son adversaire que, grâce à sa grande jeunesse, il espérait intimider. Mais D'Artagnan avait fait la veille son apprentissage, et tout frais émoulu de sa victoire, tout gonflé de sa future faveur, il était résolu à ne pas reculer d'un pas. Aussi, les deux fers se trouvèrent-ils engagés jusqu'à la garde, et comme D'Artagnan tenait ferme à sa place, ce fut son adversaire qui fit un pas de retraite. Mais D'Artagnan saisit le moment où, dans ce mouvement, le fer de Bernajoux déviait de la ligne. Il dégagea, se fendit et toucha son adversaire à l'épaule. Aussitôt, D'Artagnan, à son tour, fit un pas de retraite et releva son épée. Mais Bernajoux lui cria que ce n'était rien, et se fendant aveuglément sur lui, il s'enferra de lui-même. Cependant, comme il ne tombait pas, comme il ne se déclarait pas vaincu, mais que seulement il rompait du côté de l'hôtel de M. de la Trémouille, au service duquel il avait un parent, D'Artagnan, ignorant lui-même la gravité de la dernière blessure que son adversaire avait reçue, le pressait vivement, et sans doute allait-il l'achever d'un troisième coup, lorsque la rumeur qui s'élevait de la rue s'étant étendue jusqu'au jeu de paume, deux des amis du garde, qui l'avaient entendu échanger quelques paroles avec D'Artagnan, et qui l'avaient vu sortir à la suite de ces paroles, se précipitèrent l'épée à la main hors du tripot et tombèrent sur le vainqueur. Mais aussitôt, Athos, Porthos et Aramis parurent à leur tour, et au moment où les deux gardes attaquaient le jeune camarade, les forcèrent à se retourner. En ce moment, Bernajoux tomba, et comme les gardes étaient seulement deux contre quatre, ils se mirent à crier « À nous, l'hôtel de la Trémouille !» À ces cris, tous ceux qui étaient dans l'hôtel sortit, se ruant sur les quatre compagnons, qui de leur côté se mirent à crier « À nous, mousquetaires !» Ce cri était ordinairement entendu, car on savait les mousquetaires ennemis de son éminence, et on les aimait pour la haine qu'ils portaient au cardinal. Aussi, les gardes des autres compagnies que celles appartenant au duc rouge, comme l'avait appelé Aramis, prenait-il en général parti dans ces sortes de querelles pour les mousquetaires du roi. De trois gardes de la compagnie de M. des Essarts qui passaient, deux vinrent donc en aide aux quatre compagnons, tandis que l'autre courait à l'hôtel de M. de Tréville, criant « À nous, mousquetaires, à nous !» Comme d'habitude, l'hôtel de M. de Tréville était plein de soldats de cette arme, qui accoururent au secours de leurs camarades. La mêlée devint générale, mais la force était aux mousquetaires. Les gardes du cardinal et les gens de M. de la Trémouille se retirèrent dans l'hôtel, dont ils fermèrent les portes assez à temps pour empêcher que leurs ennemis n'y fissent irruption en même temps qu'eux. Quant aux blessés, ils y avaient été tout d'abord transportés et, comme nous l'avons dit, en fort mauvais état. L'agitation était à son comble parmi les mousquetaires et leurs alliés, et l'on délibérait déjà si, pour punir l'insolence qu'avaient eue les domestiques de M. de la Trémouille, de faire une sortie sur les mousquetaires du roi, on ne mettrait pas le feu à son hôtel. La proposition en avait été faite et accueillie avec enthousiasme, lorsque, heureusement, 11 heures sonnèrent. D'Artagnan et ses compagnons se souvinrent de leur audience, et comme ils eussent regretté que l'on fît un si beau coup sans eux, ils parvinrent à calmer les têtes. On se contenta donc de jeter quelques pavés dans les portes, mais les portes résistèrent. Alors, on se lassa. D'ailleurs, ceux qui devaient être regardés comme les chefs de l'entreprise avaient depuis un instant quitté le groupe et s'acheminaient vers l'hôtel de M. de Tréville, qui les attendait, déjà au courant de cette algarade. « Vite au Louvre, » dit-il, « au Louvre, sans perdre un instant, et tâchons de voir le roi avant qu'il soit prévenu par le cardinal. Nous lui raconterons la chose comme une suite de l'affaire d'hier, et les deux passeront ensemble. » M. de Tréville, accompagné des 4 jeunes gens, s'achemina donc vers le Louvre. Mais, au grand étonnement du capitaine des mousquetaires, on lui annonça que le roi était allé courir le cerf dans la forêt de Saint-Germain. M. de Tréville se fit répéter 2 fois cette nouvelle, et à chaque fois, ses compagnons virent son visage se rembrunir. « Est-ce que Sa Majesté, demanda-t-il, avait dès hier le projet de faire cette chasse ?»« Non, Votre Excellence, répondit le valet de chambre, c'est le grand veneur qui est venu lui annoncer ce matin qu'on avait détourné cette nuit un cerf à son intention. Il a d'abord répondu qu'il n'irait pas. Puis, il n'a pas su résister au plaisir que lui promettait cette chasse, et après le dîner, il est parti. « Et le roi a-t-il vu le cardinal ?» demanda M. de Tréville. « Selon toute probabilité, répondit le valet de chambre, car j'ai vu ce matin les chevaux au carrosse de son éminence. J'ai demandé où elle allait, et l'on m'a répondu à Saint-Germain. « Nous sommes prévenus, » dit M. de Tréville. « Messieurs, je verrai le roi ce soir, mais quant à vous, je ne vous conseille pas de vous y hasarder. » L'avis était trop raisonnable, et surtout venait d'un homme qui connaissait trop bien le roi, pour que les 4 jeunes gens essayassent de le combattre. M. de Tréville les invita donc à rentrer chacun chez eux et à attendre de ses nouvelles. En entrant à son hôtel, M. de Tréville songea qu'il fallait prendre date en portant plainte le premier. Il envoya un de ses domestiques chez M. de la Trémouille avec une lettre dans laquelle il le priait de mettre hors de chez lui le garde de M. le cardinal et de réprimander ses gens de l'audace qu'ils avaient eue de faire leur sortie contre les mousquetaires. Mais M. de la Trémouille, déjà prévenu par son écuyer, dont, comme on le sait, Bernajoux était le parent, lui fit répondre que ce n'était ni à M. de Tréville, ni à ses mousquetaires de se plaindre, mais bien au contraire à lui, dont les mousquetaires avaient chargé les gens et avaient voulu brûler l'hôtel. Or, comme le débat entre ces 2 seigneurs eût pu durer longtemps, chacun devant naturellement s'entêter dans son opinion, M. de Tréville avisa un expédient qui avait pour but de tout terminer. C'était d'aller trouver lui-même M. de la Trémouille. Il se rendit donc aussitôt à son hôtel et se fit annoncer. Les 2 seigneurs se saluèrent poliment, car s'il n'y avait pas amitié entre eux, il y avait du moins estime. Tous 2 étaient gens de cœur et d'honneur, et comme M. de la Trémouille, protestant, et voyant rarement le roi, n'était d'aucun parti, il n'apportait en général dans ses relations sociales aucune prévention. Cette fois néanmoins, son accueil, quoique poli, fut plus froid que d'habitude. « Monsieur, dit M. de Tréville, nous croyons avoir à nous plaindre chacun l'un de l'autre, et je suis venu moi-même pour que nous tirions de compagnie cette affaire au clair. »« Volontiers, répondit M. de la Trémouille, mais je vous préviens que je suis bien renseigné, et tout le tort est à vos mousquetaires. »« Vous êtes un homme trop juste et trop raisonnable, monsieur, dit M. de Tréville, pour ne pas accepter la proposition que je vais faire. « Faites, monsieur, j'écoute. » « Comment se trouve M. Bernajoux, le parent de votre écuyer ?»« Mais, monsieur, fort mal, outre le coup d'épée qu'il a reçu dans le bras, et qui n'est pas autrement dangereux, il a encore ramassé un autre qui lui a traversé le poumon, de sorte que le médecin en dit de pauvres choses.
Mais le blessé a-t-il conservé sa connaissance?
Parfaitement.
Parle-t-il?
Avec difficulté, mais il parle.
Eh bien, monsieur, rendons-nous près de lui. Adjurons-le, au nom de Dieu devant lequel il va être appelé peut-être, de dire la vérité. Je le prends pour juge dans sa propre cause, monsieur, et ce qu'il dira, je le croirai.
Monsieur de la Trémouille réfléchit un instant, puis, comme il était difficile de faire une proposition plus raisonnable, il accepta.
Fin de la première partie du chapitre 6. Deuxième partie du chapitre 6 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 6, deuxième partie.
Tous deux descendirent dans la chambre où était le blessé. Celui-ci, en voyant entrer ces deux nobles seigneurs qui venaient lui faire visite, essaya de se relever sur son lit, mais il était trop faible, et, épuisé par l'effort qu'il avait fait, il retomba presque sans connaissance. Monsieur de la Trémouille s'approcha de lui et lui fit respirer des sels qui le rappelèrent à la vie. Alors, Monsieur de Tréville, ne voulant pas qu'on pût l'accuser d'avoir influencé le malade, invita Monsieur de la Trémouille à l'interroger lui-même. Ce qu'avait prévu Monsieur de Tréville arriva. Placé entre la vie et la mort comme l'était Bernajoux, il n'eut pas même l'idée de taire un instant la vérité, et il raconta aux deux seigneurs les choses exactement telles qu'elles s'étaient passées. C'était tout ce que voulait Monsieur de Tréville. Il souhaita à Bernajoux une prompte convalescence, prit congé de Monsieur de la Trémouille, rentra à son hôtel et fit aussitôt prévenir les quatre amis qu'il les attendait à dîner. Monsieur de Tréville recevait fort bonne compagnie, toute anticardinaliste d'ailleurs. On comprend donc que la conversation roula pendant tout le dîner sur les deux échecs que venaient d'éprouver les gardes de son éminence. Or, comme D'Artagnan avait été le héros de ces deux journées, ce fut sur lui que tombèrent toutes les félicitations qu'Athos, Porthos et Aramis lui abandonnèrent, non seulement en bons camarades, mais en hommes qui avaient eu assez souvent leur tour pour qu'ils lui laissassent le sien. Vers 6 heures, M. de Tréville annonça qu'il était tenu d'aller au Louvre. Mais comme l'heure de l'audience accordée par Sa Majesté était passée, au lieu de réclamer l'entrée par le petit escalier, il se plaça avec les quatre jeunes gens dans l'antichambre. Le roi n'était pas encore revenu de la chasse. Nos jeunes gens attendaient depuis une demi-heure à peine, mêlés à la foule des courtisans, lorsque toutes les portes s'ouvrirent et qu'on annonça Sa Majesté. À cette annonce, D'Artagnan se sentit frémir jusqu'à la moelle des os. L'instant qui allait suivre devait, selon toute probabilité, décider du reste de sa vie. Aussi, ses yeux se fixèrent-ils avec angoisse sur la porte par laquelle devait entrer le roi. Louis XIII parut, marchant le premier. Il était en costume de chasse, encore tout poudreux, ayant de grandes bottes et tenant un fouet à la main. Au premier coup d'œil, D'Artagnan jugea que l'esprit du roi était à l'orage. Cette disposition, toute visible qu'elle était chez Sa Majesté, n'empêcha pas les courtisans de se ranger sur son passage. Dans les antichambres royales, mieux vaut encore être vu d'un œil irrité que de n'être pas vu du tout. Les trois mousquetaires n'hésitèrent donc pas et firent un pas en avant, tandis que D'Artagnan, au contraire, restait caché derrière eux. Mais quoique le roi connût personnellement Athos, Porthos et Aramis, il passa devant eux sans les regarder, sans leur parler, et comme s'il ne les avait jamais vus. Quant à M. de Tréville, lorsque les yeux du roi s'arrêtèrent un instant sur lui, il soutint ce regard avec tant de fermeté que ce fut le roi qui détourna la vue. Après quoi, tout en grommelant, Sa Majesté rentra dans son appartement. « Les affaires vont mal, » dit Athos en souriant, « et nous ne serons pas encore faits chevaliers de l'ordre cette fois-ci. » « Attendez 10 minutes, » dit M. de Tréville, « et si au bout de 10 minutes vous ne me voyez pas sortir, retournez à mon hôtel, car il sera inutile que vous m'attendiez plus longtemps. » Les 4 jeunes gens attendirent 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et voyant que M. de Tréville ne reparaissait point, ils sortirent fort inquiets de ce qui allait arriver. M. de Tréville était entré hardiment dans le cabinet du roi, et avait trouvé Sa Majesté de très méchante humeur, assise sur un fauteuil et battant ses bottes du manche de son fouet, ce qui ne l'avait pas empêché de lui demander, avec le plus grand flegme, des nouvelles de sa santé. « Mauvaise, monsieur, mauvaise, » répondit le roi. « Je m'ennuie. » C'était en effet la pire maladie de Louis XIII, qui souvent prenait un de ses courtisans, l'attirait à une fenêtre et lui disait « Monsieur un tel, ennuyons-nous ensemble. »« Comment ? Votre Majesté s'ennuie, » dit M. de Tréville. « N'a-t-elle donc pas pris aujourd'hui le plaisir de la chasse ?»« Beau plaisir, monsieur. Tout dégénère, sur mon âme. » Et je ne sais si c'est le gibier qui n'a plus de voix ou les chiens qui n'ont plus de nez. Nous lançons un cerf 10 cors, nous le courons 6 heures, et quand il est prêt à tenir, quand Saint-Simon met déjà le corps à sa bouche pour sonner l'alali, crac, toute la meute prend le change et s'emporte sur un daguet. Vous verrez que je serai obligé de renoncer à la chasse à cour, comme j'ai renoncé à la chasse au vol. Ah, je suis un roi bien malheureux, monsieur de Tréville. Je n'avais plus qu'un gerfaut, et il est mort avant-hier. En effet, sire, je comprends votre désespoir, et le malheur est grand. Mais il vous reste encore, ce me semble, bon nombre de faucons, d'éperviers et de tircelets. Et pas un homme pour les instruire. Les fauconniers s'en vont, il n'y a plus que moi qui connaisse l'art de la vénerie. Après moi, tout sera dit, et l'on chassera avec des traquenards, des pièges, des trappes, si j'avais le temps de former des élèves. Mais oui, monsieur le cardinal est là, qui ne me laisse pas un instant de repos, qui me parle de l'Espagne, qui me parle de l'Autriche, qui me parle de l'Angleterre. Ah, à propos de monsieur le cardinal, monsieur de Tréville, je suis mécontent de vous. Monsieur de Tréville attendait le roi à cette chute. Il connaissait le roi de longue main. Il avait compris que toutes ses plaintes n'était qu'une préface, une espèce d'excitation pour s'encourager lui-même, et que c'était où il était arrivé, enfin, qu'il en voulait venir. « Et en quoi ai-je été assez malheureux pour déplaire à votre majesté ?» demanda M. de Tréville, en feignant le plus profond étonnement. « Est-ce ainsi que vous faites votre charge, monsieur ?» continua le roi, sans répondre directement à la question de M. de Tréville. « Est-ce pour cela que je vous ai nommé capitaine de mes mousquetaires, que ceux-ci assassinent un homme, émeuvent tout un quartier, et veulent brûler Paris sans que vous en disiez un mot. Mais au reste, continua le roi, sans doute que je me hâte de vous accuser, sans doute que les perturbateurs sont en prison, et que vous venez m'annoncer que justice est faite. Sire, répondit tranquillement M. de Tréville, je viens vous la demander, au contraire. « Et contre qui ? » s'écria le roi. « Contre les calomniateurs, » dit M. de Tréville. « Ah, voilà qui est nouveau, » reprit le roi. « N'allez-vous pas dire que vos 3 mousquetaires damnés, Athos, Porthos et Aramis, et votre cadet de Béarn, ne se sont pas jetés comme des furieux sur le pauvre Bernajoux, et ne l'ont pas maltraité de telle façon qu'il est probable qu'il est en train de trépasser à cette heure. N'allez-vous pas dire qu'ensuite, ils n'ont pas fait le siège de l'hôtel du duc de la Trémouille, et qu'ils n'ont point voulu le brûler, ce qui n'aurait peut-être pas été un très grand malheur en temps de guerre, vu que c'est un nid de huguenots, mais ce qui, en temps de paix, est un fâcheux exemple. Dites, n'allez-vous pas nier tout cela ?»«
Et qui vous a fait ce beau récit, sire ?» demanda tranquillement M. de Tréville.
« Qui m'a fait ce beau récit, monsieur ? Et qui voulez-vous que ce soit, si ce n'est celui qui veille quand je dors, qui travaille quand je m'amuse, qui mène tout au-dedans et au-dehors du royaume, en France comme en Europe ?»«
Sa Majesté veut parler de Dieu sans doute, » dit M. de Tréville, « car je ne connais que Dieu qui soit si fort au-dessus de Sa Majesté. »«
Non, monsieur, je veux parler du soutien de l'État, de mon seul serviteur, de mon seul ami, de monsieur le cardinal. »
Son éminence n'est pas sa sainteté, sire.
Qu'entendez-vous par là, monsieur?
Qu'il n'y a que le pape qui soit infaillible, et que cette infaillibilité ne s'étend pas aux cardinaux.
Vous voulez dire qu'il me trompe? Vous voulez dire qu'il me trahit? Vous l'accusez, alors? Voyons, dites, avouez franchement ce que vous l'accusez.
Non, sire. Mais je dis qu'il se trompe lui-même. Je dis qu'il a été mal renseigné. Je dis qu'il a eu hâte d'accuser les mousquetaires de votre majesté, pour lesquels il est injuste, et qu'il n'a pas été puiser ses renseignements aux bonnes sources.
L'accusation vient de monsieur de la Trémouille, du duc lui-même. Que répondez-vous à cela?
Je répondrai, sire, qu'il est trop intéressé dans la question pour être un témoin bien impartial. Mais loin de là, sire, je connais le duc pour être un loyal gentilhomme, et je m'en rapporterai à lui, mais à une condition, sire.
Laquelle?
C'est que votre majesté le fera venir, l'interrogera, mais elle-même, en tête à tête, sans témoin, et que je reverrai votre majesté aussitôt qu'elle aura reçu le duc.
Oui, da, fit le roi. Et vous vous en rapporterez à ce que dira monsieur de la Trémouille?
Oui, sire.
Vous accepterez son jugement?
Sans doute.
Et vous vous soumettrez aux réparations qu'il exigera?
Parfaitement.
La chaînée, fit le roi, la chaînée.
Le valet de chambre de confiance de Louis XIII, qui se tenait toujours à la porte, entra.
La chaînée, dit le roi, qu'on aille à l'instant même me quérir monsieur de la Trémouille. Je veux lui parler ce soir.
Votre Majesté me donne sa parole qu'elle ne verra personne entre monsieur de la Trémouille et moi.
Personne. Foi de gentilhomme.
À demain, sire, alors.
À demain, monsieur.
À quelle heure, s'il plaît à votre Majesté?
À l'heure que vous voudrez.
Mais en venant par trop matin, je crains de réveiller votre Majesté.
Me réveiller? Est-ce que je dors? Je ne dors plus, monsieur. Je rêve quelquefois, voilà tout. Venez donc d'aussi bon matin que vous voudrez, à 7 heures. Mais gare à vous si vos mousquetaires sont coupables.
Si mes mousquetaires sont coupables, sire, les coupables seront remis aux mains de votre majesté, qui ordonnera d'eux selon son beau plaisir.
Votre majesté exige-t-elle quelque chose de plus?
Qu'elle parle, je suis prêt à lui obéir.
Non, monsieur, non. Et ce n'est pas sans raison qu'on m'a appelé Louis le Juste. À demain donc, monsieur, à demain. Dieu garde jusque-là votre majesté. Si peu que dormit le roi, monsieur de Tréville dormit plus mal encore. Il avait fait prévenir dès le soir même ses 3 mousquetaires et leurs compagnons de se trouver chez lui à 6h30 du matin. Il les emmena avec lui, sans rien leur affirmer, sans rien leur promettre, et ne leur cachant pas que leur faveur et même la sienne, tenait à un coup de dé. Arrivé au bas du petit escalier, il les fit attendre. Si le roi était toujours irrité contre eux, il s'éloignerait sans être vu. Si le roi consentait à les recevoir, il n'aurait qu'à les faire appeler. En arrivant dans l'antichambre particulière du roi, M. de Tréville trouva la chaînée qui lui apprit qu'on n'avait pas rencontré le duc de la Trémouille la veille au soir à son hôtel, qu'il était rentré trop tard pour se présenter au Louvre, qu'il venait seulement d'arriver, et qu'il était à 7 heures chez le roi. Cette circonstance plut beaucoup à M. de Tréville, qui, de cette façon, fut certain qu'aucune suggestion étrangère ne se glisserait
entre la déposition de M. de la Trémouille et lui. En effet, 10 minutes s'étaient à peine écoulées que la porte du cabinet du roi s'ouvrit, et que M. de Tréville en vit sortir le duc de la Trémouille, lequel vint à lui et lui dit « Monsieur de Tréville, Sa Majesté vient de m'envoyer quérir pour savoir comment les choses s'étaient passées hier matin à mon hôtel. Je lui ai dit la vérité, c'est-à-dire que la faute était à mes gens, et que j'étais prêt à vous en faire mes excuses. Puisque je vous rencontre, veuillez les recevoir et me tenir toujours pour un de vos amis. » « Monsieur le duc, dit M. de Tréville, j'étais si plein de confiance dans votre loyauté que je n'avais pas voulu, près de Sa Majesté, d'autre défenseur que vous-même. Je vois que je ne m'étais pas abusé, et je vous remercie de ce qu'il y a encore en France un homme de qui on puisse dire sans se tromper ce que j'ai dit de vous. « c'est bien, dit le roi, qui avait écouté tous ces compliments entre les deux portes. Seulement, dites-lui, Tréville, puisqu'il se prétend un de vos amis, que moi aussi, je voudrais être un des siens, mais qu'il me néglige. Il y a tantôt 3 ans que je ne l'ai vu, et que je ne le vois que quand je l'envoie chercher. Dites-lui tout cela de ma part, car ce sont des choses qu'un roi ne peut dire lui-même. « Merci, sire, merci, dit le duc, mais votre majesté croit bien que ce ne sont point ceux qu'elle voit à toute heure du jour qui lui sont les plus dévoués. Ah, vous avez entendu ce que j'ai dit. Tant mieux, monsieur le duc, tant mieux, dit le roi, en s'avançant jusque sur la porte. Ah, c'est vous, Tréville. Où sont vos mousquetaires? Je vous avais dit avant-hier de me les amener. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Ils sont en bas, sire, et avec votre congé, la chaînée va leur dire de monter. Oui, oui, qu'ils viennent tout de suite. Il va être 8 heures. Et à 9 heures, j'attends une visite. Allez, monsieur le duc, et revenez surtout. Entrez, Tréville. » Le duc salua et sortit. Au moment où il ouvrait la porte, les 3 mousquetaires et D'Artagnan, conduits par la chaînée, apparaissaient au haut de l'escalier. « Venez, mes braves, dit le roi, venez, j'ai à vous gronder. » Les mousquetaires s'approchèrent en s'inclinant. D'Artagnan les suivait par derrière. « Comment diable, continua le roi, à vous 4, 7 gardes de son éminence mis hors de combat en 2 jours. C'est trop, messieurs, c'est trop. À ce compte-là, son éminence serait forcée de renouveler sa compagnie dans 3 semaines, et moi, de faire appliquer les édits dans toute leur rigueur. Un par hasard, je ne dis pas, mais 7 en 2 jours, je le répète, c'est trop, c'est beaucoup trop. Aussi, sire, votre Majesté voit qu'ils viennent tout contrits et tout repentants lui faire leurs excuses. Tout contrits et tout repentants. Hum, fit le roi. Je ne me fie point à leurs faces hypocrites. Il y a surtout là-bas une figure de Gascon. Venez ici, monsieur. D'Artagnan comprit que c'était à lui que le compliment s'adressait. S'approcha en prenant son air le plus désespéré. Eh bien, que me disiez-vous donc, que c'était un jeune homme? C'est un enfant, monsieur de Tréville, un véritable enfant. Et c'est celui-là qui a donné ce rude coup d'épée à Jussac? Et ces 2 beaux coups d'épée à Bernajoux? Véritablement. Sans compter, dit Athos, que, s'il ne m'avait pas tiré des mains de Biscara, je n'aurais très certainement pas l'honneur de faire en ce moment ma très humble révérence à votre majesté. « Mais c'est donc un véritable démon que ce Béarnais, ventre Saint-Gris, monsieur de Tréville, comme eût dit le roi mon père. À ce métier-là, on doit trouver force pour poing et briser force épée. Or, les Gascons sont toujours pauvres, n'est-ce pas ?»« Sire, je dois dire qu'on n'a pas encore trouvé de mine d'or dans leurs montagnes, quoique le Seigneur leur dût bien ce miracle en récompense de la manière dont ils ont soutenu les prétentions du roi votre père. » Ce qui veut dire que ce sont les Gascons qui m'ont fait roi moi-même, n'est-ce pas, Tréville, puisque je suis le fils de mon père? Eh bien, à la bonne heure, je ne dis pas non. La chaînée, allez voir si, en fouillant dans toutes mes poches, vous trouverez 40 pistoles. Et si vous les trouvez, apportez-les-moi. Et maintenant, voyons, jeune homme, la main sur la conscience, comment cela s'est-il passé ?»
D'Artagnan raconta l'aventure de la veille dans tous ses détails. Comment, n'ayant pas pu dormir de la joie qu'il éprouvait à voir Sa Majesté, il était arrivé chez ses amis 3 heures avant l'heure de l'audience. Comment ils étaient allés ensemble au tripot, et comment, sur la crainte qu'il avait manifestée de recevoir une balle au visage, il avait été raillé par Bernajoux, lequel avait failli payer cette raillerie de la perte de la vie, et M. de la Trémouille, qui n'y était pour rien, de la perte de son hôtel.
« C'est bien cela, » murmura le roi. « Oui, c'est ainsi que le duc m'a raconté la chose. Pauvre cardinal, cet homme en 2 jours, et de ses plus chers. Mais c'est assez comme cela, messieurs, entendez-vous? C'est assez. Vous avez pris votre revanche de la rue Férou, et au-delà, vous devez être satisfait. »
« Si votre majesté l'est, dit Tréville, nous le sommes. »«
Oui, je le suis, ajouta le roi, en prenant une poignée d'or de la main de la chaînée, et en la mettant dans celle de D'Artagnan. Voici, dit-il, une preuve de ma satisfaction. » À cette époque, les idées de fierté qui sont de mise de nos jours n'étaient point encore de mode. Un gentilhomme recevait, de la main à la main, de l'argent du roi, et n'en était pas le moins du monde humilié. D'Artagnan mit donc les 40 pistoles dans sa poche, sans faire aucune façon, et en remerciant tout au contraire grandement Sa Majesté.
« Là, dit le roi, en regardant sa pendule, là, et maintenant qu'il est 8h30, retirez-vous, car, je vous l'ai dit, j'attends quelqu'un à 9h. Merci de votre dévouement, messieurs. J'y puis compter, n'est-ce pas ?»«
Oh, sire, s'écrièrent d'une même voix les 4 compagnons. « Nous nous ferions couper en morceaux pour votre majesté. »«
Bien, bien, mais restez entiers, cela vaut mieux, et vous me serez plus utile. » »«
Tréville, ajouta le roi à demi-voix, pendant que les autres se retiraient, comme vous n'avez pas de place dans les mousquetaires, et que d'ailleurs, pour entrer dans ce corps, nous avons décidé qu'il fallait faire un noviciat, placez ce jeune homme dans la compagnie des gardes de M. des Essarts, votre beau-frère.
Ah, pardieu, Tréville, je me réjouis de la grimace que va faire le cardinal. Il sera furieux, mais cela m'est égal. Je suis dans mon droit. » Et le roi salua de la main Tréville, qui sortit et s'en va rejoindre ses mousquetaires, qu'il trouva, partageant avec D'Artagnan les 40 pistoles. Et le cardinal, comme l'avait dit Sa Majesté, fut effectivement furieux, si furieux que pendant 8 jours, il abandonna le jeu du roi, ce qui n'empêchait pas le roi de lui faire la plus charmante mine du monde, et toutes les fois qu'il le rencontrait, de lui demander de sa voix la plus caressante, « Eh bien, monsieur le cardinal, comment vont ce pauvre Bernajoux et ce pauvre Jussac, qui sont à vous ?» Fin du chapitre 6.
At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.